bonjour et bonne année 2023. Acceptez de tout cœur nos vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle. Santé, bonheur, paix et prospérité à toutes et à tous. La 7e législature centrafricaine tend vers sa 3e année de magistrature. Elle a bouclé jeudi 29 décembre dernier la session ordinaire de 2022. À cette occasion, plusieurs lois ont été votées, parmi lesquelles la loi fixant les procédures du référendum en République centrafricaine. Cette loi donne désormais plein pouvoir au président Touadéra de demander l'avis du peuple par la voie référendaire sur les sujets ou des initiatives qui seront prises par son gouvernement. L'adoption de cette loi référendaire intervient dans un contexte où certains cadres du parti au pouvoir MCU et organisations qui soutiennent le gouvernement ne cessent de demander au président de la République de convoquer un référendum sur le sujet, bien sûr, de la réécriture d'une nouvelle constitution. Beauté en touche par la Cour constitutionnelle. L'opposition, elle, s'oppose toujours à cette initiative qui, selon elle, est une manière pour le gouvernement de favoriser un troisième et un quatrième mandat à Faustin Alcantouadira. Mais les députés de la majorité au pouvoir affirment que ce projet de loi contient uniquement des dispositions relatives à l'organisation des référendums. Mais ce bras de fer entre le gouvernement et l'opposition est loin de connaître une fin. Que pensez-vous de cette loi fixant les procédures du référendum en République centrafricaine? Quelle est la crainte des députés qui s'opposent à cette loi? Est-ce un quitus que la majorité a donné au président Touadéra de convoquer le référendum constitutionnel tant souhaité par ses partisans? Quel est l'enjeu de cette loi dans un contexte politique ambigu? Ce sont là les grandes interrogations phares du débat politique qui boucle l'année 2022 et qui, bien sûr, nous ouvre la porte de 2023. Et pour en discuter, deux personnalités et donc deux idées opposées sont à l'honneur. L'un est député de la première circonscription du 4e arrondissement de Bangui. Je voulais ici nommer Dominique Yandoka, président de la commission ressources naturelles à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, bonjour et bonne année.
Bonjour. Armando, bonjour. Bonjour à vous apparemment.
Merci. Et l'autre, c'est le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, ancien député coordinateur du mouvement Centrafrique, Debout MCD, qui soutient les actions du président de la République, Mathurin Dimbelenakwe. Bonjour et mes meilleurs voeux de l'année à vous et à votre famille. Politique, bonjour, bien sûr.
Bonjour Armando, bonjour et bonne année à tous ceux qui travaillent à la radio Ndekeluka et à tous les auditeurs de Ndekeluka.
Merci encore, bonne année à toutes et à tous. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Ouvrons ce débat démocratique avec vous, Monsieur Dimbelenakwe. Quel a été votre sentiment au moment où je vous invite à participer à cette émission et à débattre avec Dominique Yandoka?
Ça a toujours été un honneur pour moi et puis un plaisir de rencontrer vous, Armando, et de participer à cette émission que vous animez avec beaucoup de professionnalisme et que les Centrafricains suivent beaucoup. Et donc, je ne pourrais qu'émettre un vœu que cette émission démocratique continue pour la promotion de la démocratie en République centrafricaine. Donc, ça a été vraiment un plaisir. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été ici, donc c'était vraiment un plaisir.
Oui, vous et êtes à l'honneur.
Et le sujet me va énormément et je pense qu'il aurait que ce sera un bon débat.
Un bon débat, oui. Monsieur Yandoka, vous avez accepté de discuter avec M. Dimbele, qui fut votre ancien en tant que député, mais aussi conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale sur certaines initiatives que vous jugez dangereuses pour l'avenir du pays. Votre motivation pour ce débat?
Comme vous l'avez dit, comme a dit l'honorable Dimbele, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, d'échanger sur les questions qui touchent la vie de la nation. Je suis toujours ravi d'échanger avec n'importe quelle personnalité, centrafricain ou non, qui se mettra en face pour débattre des questions qui touchent la vie de notre nation. Donc, en cette fin de l'année 2022, nous ne pouvons que discuter. Et si peut-être, comme avait dit l'honorable, cela se passerait vraiment dans une ambiance républicaine et sur la base de la démocratie.
Voilà. Et à la fin, je vous donnerai l'occasion de saluer vos compatriotes, les centrafricains, de leur souhaiter bonne année. On a déjà passé en revue tout ce que nous allons voir pour ce débat. Mais en attendant, un a passé, plusieurs sujets ont émaillé la vue du pays, tant sur le plan sécuritaire que socio-économique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant l'année 2022? D'abord, vous, M. Dimbelenakwe, la vie politique, socio-économique de votre pays.
En 2022, j'ai été marquée particulièrement par des événements très récents, notamment des groupes armés qui se sont autodissous. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le peuple centrafricain. La deuxième nouvelle qui m'a vraiment enchanté, c'est la reprise de pratiquement l'ensemble du territoire national centrafricain par nos forces de défense et de sécurité qui sont maintenant déployées pratiquement sur l'ensemble du territoire national, alors que jusqu'en 2018, 2019, 2020 même, on disait que plus de 80% du territoire national était occupé par les groupes armés. Aujourd'hui, cette occupation n'est plus qu'un triste souvenir et moi je pense que nous devons encourager nos forces armées, nous devons encourager le gouvernement à aller de l'avant dans ce sens-là. La deuxième chose qui m'a marqué en dehors de la sécurité, c'est le miracle que fait le gouvernement, parce que nous sommes tous au courant que beaucoup de nos partenaires financiers internationaux, hein, traditionnels, ont retiré leur aide budgétaire et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une friction financière, que le gouvernement ne soit plus en mesure de payer les salaires, de répondre aux dépenses régaliennes de l'État. Fort heureusement, le gouvernement continue à assurer le paiement régulier des salaires à terme échu, parce que on a habitué les salariés centrafricains à percevoir leur dû tous les 25 de chaque mois et je pense que ce rythme a été maintenu. Maintenant, là où je travaille, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, ce qui m'a le plus marqué pendant l'année 2022, je l'ai dit sans trop de flatterie, c'est vraiment l'ambiance qui y prévaut. J'étais à la 6e législature et je puis dire que la 7e législature, il y a plus de responsabilités. Parce que lorsque des textes sur lesquels, avant, pendant la 6e législature, on s'opposait farouchement, lorsque des textes de ce type arrivent, ce qu'on remarque est que les députés sont en mesure de se regrouper, et puis ceci dans l'intérêt de la nation centrafricaine, de l'État centrafricain, pour voter les lois. Comme exemple, que l'honorable Dila me permette de le citer ici, c'est l'intervention de l'honorable Dila, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, que personne n'ignore son appartenance au MLPC, mais lors de ce vote-là, de la loi fixant les procédures référendaires en Centrafrique, l'honorable Dila est venu et a dit clairement que ce texte est prévu par la Constitution, que lui, il ne peut pas s'opposer à l'évidence. Pendant la 6e législature, c'était pas possible que quelqu'un de l'opposition tienne ce langage-là. Voilà ce qui m'a marqué personnellement pendant l'année 2022, en dehors de ce que moi-même j'ai été nommé. Ça, c'est un souvenir personnel.
De 2022.
J'ai été nommé conseiller personnel du PAN. C'est un souvenir que je ne pourrais pas élucider. Et puis, c'est un souvenir personnel.
D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de choses, mais on va sélectionner l'essentiel. Okay. Pour nos auditeurs, monsieur Dominique Yandoka, député du 4e 1, les souvenirs. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport aux activités qui ont marqué l'année 2022 sur le plan politique, sécuritaire, économique, etc.?
Sur le plan politique, j'ai été plutôt marqué par la violence et la brutalité dans les prises de décision du gouvernement. Le forcing sur des faits, les limogeages anticonstitutionnels qui a beaucoup marqué, parce que dans d'autres pays, je pense qu'il y a des choses qui devraient pas se faire, mais ils l'ont quand même fait. Ça a été fait et c'est très marquant. Il y a aussi, sur le plan social, la résilience du peuple centrafricain. Le peuple centrafricain est plutôt attentiste, malgré les souffrances, malgré les déboires. Nous avons pour objectif, l'objectif du peuple, c'est de voir un jour qui est l'avenir meilleur. Et ça, je pense que si vous pouvez le constater, dans d'autres pays, avec de la brutalité qu'avait affiché le gouvernement, je pense qu'on ne pouvait pas en arriver là, malheureusement. D'autres faits, comme avait dit l'honorable Dimbélé, c'est vrai, le pays a recouvré la paix, une partie a recouvré la paix, mais il y a encore des foyers de tension. Je pense que ça c'est des faits qu'il faut se lever et se dire la vérité en face pour que les Centrafricains puissent être sensibilisés. Parce que la paix ne se résume pas qu'à Bangui ou Intramuros. La paix, c'est sur toute l'étendue du territoire. Et nous faisons un vœu pour que l'année 2023 soit une année d'apaisement, de moins de violences politiques, moins d'attaques, moins de mensonges. Et il faut que nous, en tant que politiques, nous tirons les leçons de tout ce qui s'est passé et de voir qu'il ne s'agit pas que de nos intérêts à nous personnels, mais c'est plutôt l'intérêt du peuple centrafricain qui devait être mis en exergue pour pouvoir penser à un développement meilleur. J'ai été profondément marqué par le limogeage de Madame Darlan. Ça, ça m'a touché. Sans la justice, parce que les raisons qui ont été évoquées pour mettre Madame Darlan hors du circuit administratif, ce sont des raisons qui ne sont pas du tout fondées. Il vous souviendra que même si on l'accuse, met en exergue le simple fait qu'elle avait atteint l'âge de la retraite, il en demeure pas moins que c'est qu'il en reste encore des collègues qui ont aussi dépassé l'âge de la retraite, mais qui continuent à exercer. Mais ceux-là n'ont pas été frappés. C'est ça cette injustice que nous pointons du doigt et que nous ne voulons plus que ça se répète. Je prends l'exemple, le président de la République aussi a eu 65 ans révolus. Si on s'en tient à ce même texte, lui aussi devait être à la retraite, ne devait plus enseigner à l'université. Mais malheureusement, il continue à le faire. Ça, pour moi, ça c'est de l'injustice. Et nous n'entendons pas que cette initiative ou cette pratique-là puisse persister en 2023.
Monsieur Dimbelena, que je vois, vous avez pris note. Hein. Vous l'avez répondu sur quelques points, je vois.
Oui, je voudrais revenir strictement sur le limogeage, soit dit anticonstitutionnel par l'honorable, de Madame Darlan. Nous devons dire la vérité au peuple centrafricain. Et il a comparé également la retraite de Madame Darlan à la situation de Monsieur Saranji, président de l'Assemblée nationale, et du président de la République. Je voudrais que nous disons la vérité au peuple centrafricain.
Il n'a pas cité le président de l'Assemblée nationale, hein, plutôt le président de la République.
Non, il a dit des citoyens et donc et des collègues. Il a dit collègues, députés, c'est Saranji.
Non, je parle du président de la République et aussi le président de l'Assemblée, bon, qui voilà. Non seulement a été mis à la retraite, mais qui continue d'enseigner.
Ok, je voudrais revenir là-dessus. Vous voyez, la gestion de la situation de Madame Darlan, c'est les articles 99 et 100 de la Constitution. C'est l'un des flous entretenus par cette Constitution du 30 mars 2016.
Et l'article 102.
À l'article 99.
Et l'article 102 dit quoi?
Non, attendez. À l'article 99, il est dit ceci. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés de la manière suivante. On a parlé là de la désignation. Et ensuite, dans le corpus même de cette désignation, on a dit qu'ils sont élus par leur père. Et l'article 100 fixe les conditions d'empêchement définitif ou temporaire des membres de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, ces deux articles ne prévoient pas la situation administrative.
Je parle de l'article 102.
Non, laissez-moi.
Allez-y.
Voilà. Oui, malheureusement, rapidement. Ces deux articles ne fixent pas la position administrative de ces membres de la Cour constitutionnelle. Nous savons que la plupart de ces membres sont des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, il y a trois positions. Il y a la position, quatre positions. Il y a la position d'activité, la position sous le drapeau, la position de détachement, la position de mise à disponibilité. Ces compatriotes qui sont à la Cour constitutionnelle ne savent pas dans quelle position ils sont à la Cour constitutionnelle. C'est une ambiguïté entretenue par cette constitution-là. Moi, j'ai été fonctionnaire.
D'où votre appel hein, à la réécriture d'une nouvelle constitution.
Voilà. À mon avis, vous voyez, moi, j'ai été élu un jour directeur général de la Société centrafricaine de stockage de produits pétroliers, SOCASP.
Élu ou vous nommez?
Élu par mes pairs, les membres du conseil d'administration de la SOCASP. Je n'ai pas été nommé. Oui. J'ai été élu par mes pairs, membre du conseil d'administration de la SOCASP pour être directeur général. Oui. Et lorsque j'ai été directeur général, la première chose que j'ai faite, c'était d'écrire à la fonction publique pour demander ma mise en disponibilité. Et donc, si je suis mis en disponibilité, ça veut dire que j'ai coupé toute relation avec mon administration d'origine.
Monsieur Dimbélé.
Si on est en détachement,
Monsieur
ça Dimbélé, veut dire...
N'allons pas.
C'est très important ce que je veux vous dire.
Finissez rapidement.
C'est très important ce que je veux vous dire. Vous voyez, Madame Darlan
est
fonctionnaire, elle est professeure. Elle a été élue par ses pairs. Faites une différence entre une élection corporatiste et une élection au suffrage universel.
Et donc ça veut dire qu'une élection corporatrice, on peut parler de désignation.
C'est un mode de désignation. C'est simplement un mode de désignation. Parce que si on avait dit que l'université désigne, l'université pouvait désigner de manière arbitraire. Donc on a dit...
Vous avez lu la Constitution. Vous avez lu la Constitution.
Laissez-moi finir, vous aurez la parole s'il vous plaît.
Finissez.
Je dis simplement que...
Concluez.
Je conclue. Ici, Madame Darlan, qui a dépassé largement de la retraite...
Elle a quel âge, Madame Darlan?
Elle a plus de 70 ans.
70 ans passés.
Bon, l'âge de la retraite, c'est 65 ans.
Okay.
Elle est allée à la retraite. Elle dépendait encore de son ministère d'origine, qui est l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur dit que à 65 ans, on ne doit plus exercer. C'est normal. Et puisque Madame ce Darlo... sont ses collègues, puisque ce sont ses collègues professeurs qui l'ont envoyé là-bas, étant donné qu'elle est mise à la retraite, elle perd sa qualité de professeur de droit, donc elle n'est plus à même de représenter.
Je voudrais vous rappeler rapidement, très rapidement, qu'on va revenir sur le débat de Madame Darlan, parce que ça a été déjà conclu il y a longtemps, en 2022, puisqu'on entend 2023, ce sont les actualités, c'est la rétrospective de ce qui était passé. Donc je vous donne la parole, monsieur
Yandoka. Armando, vous avez posé la question de savoir quels sont les actes qui nous ont marqués. Mais j'ai fait savoir ce qui m'a marqué le plus. C'est cette injustice qu'avait subie Madame Darlan, orchestrée de toutes pièces par le pouvoir en place. Orchestrée de toutes pièces. Madame Darlan fut présidente de la Cour constitutionnelle. Et ça, c'était depuis 2017. Elle avait déjà les 65 ans révolus. Ça ne vous a pas empêché de relever tout de suite, pendant qu'elle avait déjà dépassé 65 ans, qu'elle devait être à la retraite, mais vous avez quand même accepté que cette dame puisse diriger la Cour constitutionnelle, valider nos élections de 2020 sans problème. Elle a pris des décisions allant dans le sens pour stabiliser la République, ça on n'a pas vu. Le simple fait qu'elle avait pris l'initiative de botter en touche, premièrement, une loi qui a été contestée, que l'histoire a retenu, c'est la loi portant sur les crypto-monnaies, qu'on nous demande aujourd'hui à l'Assemblée de revenir dessus pour abroger cette loi. Ça, c'était une première erreur. Elle avait retoqué cela. Deuxième erreur pour elle, qui est fatale, c'était de dire que l'acte que vous avez pris pour demander une nouvelle réécriture ou la révision d'une constitution était purement, simplement anticonstitutionnel. Elle a payé le prix. Tout simplement. Arrêtons de nager dans la supercherie politique. Mais c'est une vérité que les Centrafricains doivent savoir.
Il n'y a pas de vérité là-dedans.
C'est cette vérité que vous ne voulez pas accepter.
La Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle ne dit pas que on ne peut pas écrire une nouvelle constitution. Non, la Cour constitutionnelle a demandé au président de la République de rapporter les dispositions des décrets mettant en place le comité pour écrire une nouvelle constitution. C'est tout.
Alors, l'initiative, c'était quoi? Non, vous avez mis un comité en place sans respecter la constitution.
Monsieur Dimbélé,
je suis d'accord avec vous.
Monsieur Yandoka, on ne va pas tergiverser.
Ce comité a été pris par un décret.
On ne va pas tergiverser sur cette question, parce que c'est ce qui était déjà passé, vous le savez très bien. Nous l'avons déjà évoqué longuement sur nos ondes.
On est là pour parler du passé.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais continuons sur d'autres sujets, sur le plan institutionnel et au regard des difficultés que connaît le pays, la pénurie de carburant, la hausse des prix des denrées alimentaires, la résurgence de l'insécurité, vous l'avez déjà évoqué dans certaines régions, la tension politique entre le gouvernement et l'opposition. Est-ce que l'Assemblée nationale mérite la confiance de sa population actuellement? Je vous donne la parole, monsieur Yandoka. Vous avez 2 minutes.
Je ne peux en aucun cas remettre en cause la légitimité de l'Assemblée nationale. Cette Assemblée a été issue de tout. On a vidé tous les processus qui s'imposent en la matière pour que nous soyons aujourd'hui. Mais il faut relever une chose. On peut être dans une Assemblée nationale, mais nos visions divergent. Et ce qui n'a pas marché dans cette législature, c'est l'oppression, c'est la caporalisation, c'est-à-dire
par
c'est
la majorité, par
bien sûr,
il y a le bureau,
il y a un petit
par le président proche du président de la République.
Il y a un petit lobby qui essaie d'influencer pour donner des leçons, pour obliger tout le monde à regarder dans la même vision que ce groupe. Or, nous sommes dans un lieu de la démocratie. Monsieur Dimbel ne peut pas me contredire. Moi, en tant que député de la nation, issu de cette septième législature, j'ai toujours fait preuve de bonne volonté dans ma démarche quand il s'agit de voter des lois allant dans le sens du développement de la République. Mais il y a d'autres lois. Prenons l'exemple de la loi sur les crypto-monnaies. J'étais contre cette loi. Et j'avais dit pourquoi j'étais contre. Et la deuxième loi à laquelle je ne partage pas la même vision que ceux de la majorité aujourd'hui, c'est la loi sur le référendum et la réécriture de la nouvelle constitution. Qui, pour moi, et ça tout le monde le sait, et c'est prouvé, c'est une loi dangereuse pour un pays qui se veut stable. Voilà ce que je voulais dire.
Dans l'exercice de votre fonction en tant que député, est-ce qu'avec vos collègues, vous avez pris position, vous avez gardé en chaîne défaillance une fois, deux fois comme ça sur tel sujet? Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce qu'on vous a interpellé une fois?
Sur le référendum?
Non,
ou
sur d'autres sujets.
Bien sûr qu'on n'est pas d'accord sur tout. Il y a des choses en tant que député de la nation, président d'une commission. J'ai été plusieurs fois monté voir mes collègues, voir le bureau pour échanger sur des questions liant à notre activité dans la commission, mais comme vous le savez, c'est une cuisine interne. Je pense que le moment viendra, on en parlera.
Monsieur Dimbélé, sur cette question, vous avez compris, hein, est-ce que l'Assemblée nationale regarde la situation? On parle de la pénurie de carburant, le rôle de l'Assemblée nationale qui est de contrôler les actions du gouvernement et qui a aussi un bâton coercitif, si ça ne tient pas, et au regard des difficultés que connaissent la population aujourd'hui, et les habitants ou bien les centrafricains, est-ce qu'on peut déjà dire que l'Assemblée nationale mérite toujours la confiance du peuple centrafricain?
Je voudrais, avant de conclure en ce sens, parler des points que vous avez soulevés. Oui. D'abord, pénurie de carburant. Nous savons tous que ce n'est pas le gouvernement qui importe et qui distribue le produit pétrolier dans le pays. Le gouvernement contrôle et assure le ravitaillement régulier du marché national centrafricain. C'est les marketeurs qui importent et qui distribuent. Et ces marketeurs-là, on les connaît. Il y a un problème pour lequel, je vais aller droit au but, les marketeurs font grève aujourd'hui. C'est que les marketeurs demandent au gouvernement, au vu de ce qui se passe sur le marché international des hydrocarbures, les marketeurs demandent au gouvernement de monter le prix. Et le gouvernement, de son côté, compte tenu de la faiblesse du niveau de vie des Centrafricains, est réticent sur ce point. C'est-à-dire le gouvernement refuse d'augmenter les prix des hydrocarbures au niveau demandé par les marketeurs. Les marketeurs demandent par exemple que le super, qu'on appelle essence, soit que le prix soit monté à la pompe à 1300, 1400 francs le litre et que le diesel soit monté à 1200, 1250 francs le litre. Mais le gouvernement refuse d'accéder à cette sollicitude, à cette demande des marketeurs parce que le gouvernement ne voudrait pas qu'en augmentant le prix de ces produits-là à la pompe, créer d'autres problèmes, à savoir affaiblir davantage le niveau de vie.
Mais est-ce que le vrai problème, ça se situe à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des importations, comme vous l'avez dit, clandestines qui se font dans les quartiers. Nous avons vu des incendies par-ci, par-là, parce qu'on a importé des carburants. Mais qu'est-ce qui a provoqué tout cela? Puisque si les voisins ont des carburants et la République africaine en manque, c'est quoi le problème?
Le problème, c'est ce que je vous dis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une différence de prix entre le prix à la pompe et le prix réel. Le prix réel, c'est ce que les marketeurs revendiquent. Aujourd'hui même, il y a une différence parce que le gouvernement ne peut pas subventionner le carburant acheté, par exemple, par les gros consommateurs, par les industriels, etc. Les industriels achètent à un prix différent à Colongo. À Colongo, ils achètent au prix réel. Mais à la pompe, le gouvernement subventionne la consommation du centrafricain que nous sommes. Voilà, c'est ça la différence et c'est ça qui amène la pénurie de carburant. Aujourd'hui, les marketeurs refusent de mettre le carburant à la pompe. J'ai en face de moi, parce que pendant la dernière séance en plénière, M. Yandoka m'a sollicité de lui présenter les prix auxquels les produits sont vendus à Colongo. Je lui ai fourni ces prix-là. Et je pense que j'ai suivi certaines déclarations de certains députés, notamment Masikini, et puis même M. Yandoka, qui est président de la commission ressources naturelles à l'Assemblée nationale. Et ils sont en train de faire un travail formidable pour amener le gouvernement à augmenter quand même le prix afin que le Centrafricain trouve de bons produits à la pompe. Maintenant, sur...
Allez-y.
Maintenant, sur l'oppression, la caporalisation à l'Assemblée nationale dont il parle, je refuse de me prononcer sur de tels actes. Je dis simplement que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la démocratie. Et que là-bas, il y a la majorité, il y a l'opposition. Et que chaque groupe voudrait tirer la couverture de son côté. La majorité veut que les lois envoyées par le gouvernement soient systématiquement votées. Mais l'opposition joue son rôle. Et généralement, quand l'opposition peut amener des amendements à tout projet de loi ou toute proposition de loi amenée par le gouvernement ou par l'Assemblée nationale elle-même. Donc c'est le rôle de l'opposition. L'opposition joue le rôle d'équilibriste pour amener l'équilibre dans les textes proposés.
Et dans les débats, bien sûr. Oui, M. Yandoka.
Je rebondis directement sur le deuxième point. Oui, c'est vrai, on est de la majorité. M. Dimbélé vient de relever quelque chose de grave, que la majorité vote systématiquement les lois proposées par le gouvernement. C'est une erreur.
Non, c'est pas une erreur.
Je dis que c'est une erreur. Nous, notre rôle, c'est de ne pas systématiquement vous faire voter une loi. C'est d'abord commencer par l'analyser, analyser la loi, faire des amendements, parce que nous avons été élus par le peuple centrafricain pour défendre l'intérêt du peuple. Qui vous a dit que tout ce que le gouvernement envoie à l'Assemblée nationale, c'est des idées ou c'est des projets qui doivent être systématiquement acceptés? Alors, quand toi, en tant que député, issu de la majorité ou non, que tu te lèves pour faire juste un amendement, ça cause problème. Monsieur Dimbélé en sait beaucoup. Il sait très bien que nous sommes dans un haut lieu de la démocratie. C'est vrai, mais c'est une démocratie à deux vitesses au niveau de l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne les carburants, il avait relevé tout à l'heure que c'est le gouvernement qui ne veut pas augmenter les prix de carburant à la pompe. Mais le gouvernement n'a pas les moyens de subventionner. Parce que tout ce que vous voyez comme type de carburant, il avait fait une proposition quand je lui avais demandé en tant qu'ancien DG expert en la matière de nous donner une fourchette de prix. Il était parti, nous a fait une fourchette de prix parce que je m'attendais à porter un amendement lors du budget 2023. Étant donné, comme vous le savez, comment ça se passe, le gouvernement a juste, ils ont senti que nous allons porter le dossier, a pris le devant pour dire qu'il allait mettre en place un comité pour réfléchir sur la question. Mais j'ose espérer que ce comité verra jour. Il ne faut pas mentir au peuple. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit avoir le courage politique de pointer du doigt là où ça ne va pas. De dire aux Centrafricains que aujourd'hui le gouvernement centrafricain n'a pas les moyens pour continuer à subventionner les carburants à la pompe, nous allons procéder à une réévaluation. Aujourd'hui, on paye. Tout le monde sait que les carburants frélatés au bord de la route, nous les payons bien à 1300, 1400, voire 1500.
Le litre.
Et que voudra le peuple ? Nous voulons à ce que le gouvernement réévalue un peu à la pompe, même si pour ne pas atteindre les 1400, 1500, vous avez fait une proposition pour
mais,
dire.
Mais monsieur,
vous avez fait une proposition.
Nous bouclons cette partie. Oui,
honorable Yandouka, vous êtes représentant du peuple.
Oui.
Donc, à mon avis, vous, en tant que député, devez défendre les intérêts du peuple. Alors, je suis étonné que vous vous alliez derrière, que vous souteniez les marketeurs.
Parce je que ne le, soutiens pas
si les marketeurs. Si vous soutenez les marketeurs
en demandant,
non, attendez, en demandant au gouvernement d'évaluer le prix, de remonter le prix à la pompe. Je suis d'accord avec vous. Je sais que les marketeurs, ils sont là pour faire des bénéfices. Ils sont là pour faire des affaires. Mais le gouvernement...
Est-ce une pression? Est-ce une manière de contraindre le gouvernement?
Oui, c'est une pression. Les marketeurs ne ravitaillent pas. Et vous avez bien employé le mot. Les marketeurs ne ravitaillent pas les pompes pour faire pression sur le gouvernement afin que les prix à la pompe soient élevés et alignés sur le prix réel, c'est-à-dire le prix international. Aujourd'hui, le prix réel aujourd'hui, en ce qui concerne le super, je vous l'ai dit, varie entre 1400 et 1500 francs CFA. Qu'est-ce qu'un taxi? Le prix réel.
Le prix réel
sur le marché, oui.
Sur le marché centrafricain.
Non, pas sur le marché centrafricain.
Non, ça peut pas être sur le marché international.
Non.
On parle de notre prix.
Je parle de marché international.
Non, parce que nous recevons les alertes de la Sonara, ce n'est pas 1400, 1500. Ça, c'est sur le... Aujourd'hui, je peux, si vous me permettez, je pourrais vous dire que aujourd'hui, l'histoire de la Sonara, je peux vous le donner, hein, si vous me permettez. Je reçois des alertes, on n'est pas à ce prix. C'est-à-dire que quand vous achetez le carburant depuis la Sonara, alors, vous voyez, le prix...
Vous cherchez en ligne?
Bien sûr que non, mais je reçois des alertes. Le gazole est à 649,53. Quand vous rajoutez les taxes pour que ça arrive ici, au niveau marge d'importateur, au niveau national, vous payez à 823,21. Là, on est la semaine du 22 décembre.
Je suis désolé. Le prix que vous donnez, c'est le prix. Non, le prix. Vous pouvez recevoir les alertes de la Sonara. La Sonara n'est pas le marché. La Sonara, c'est une raffinerie.
Bon, on boucle. Monsieur Timbélé, désolé. Je vais vous couper, vous deux.
Allez-y.
Désolé.
Non.
Excusez-moi, pour qu'on gagne du temps. L'Assemblée nationale a voté jeudi par acclamation la loi fixant les procédures du référendum en République centrafricaine. Retour sur les temps forts du débat suivi du vote avec Marcel Steve Mbetisinga.
Avec l'adoption de cette loi, la RCA dispose désormais d'un cadre juridique pour tout processus de référendum. Jean-Claude Komia Sambia, député de Ndjoukou.
Le référendum, c'est quoi? C'est un mode de scrutin, comme tout autre. Mais c'est un mode de scrutin apparemment un peu spécial, qui touche aux grandes décisions. Là où le président de la République, là où par exemple nous parlons, nous ne pouvons pas prendre ce genre de décision. Il faut d'abord recueillir le consentement, l'avis du peuple.
Si le référendum vise à départager deux opinions, les articles 7 et 8 de cette loi prévoyaient, avant d'être amendés, le versement d'une somme de 1 million par parti politique avant toute participation à la campagne référendaire. Même si les parlementaires ont retiré ces dispositions, pour Joseph Benunga, député de Bimbo 3, cette loi ne passe pas.
Je ne peux pas voter une loi qui viole beaucoup de dispositions de la Constitution. Parce que les partis politiques, pour participer au référendum, doivent verser une caution, doivent s'engager et faire ce que Touadéra veut. Sinon, vous n'y allez pas.
Bernard Dilla souhaite que ce projet soit en conformité avec la Constitution de la République, s'agissant de la modification ou de l'écriture de nouvelles constitutions.
Dans la Constitution, il est question de la révision de la Constitution. Or, dans le projet, on a mis « projet de loi visant la révision » ou la nouvelle constitution. Ça, ce sont des termes qui ne figurent pas dans la constitution.
Pour le ministre de l'administration du territoire, Bruno Yapandé, il ne s'agit pas encore du référendum visant la rédaction d'une nouvelle constitution.
Le moment viendra, comme l'ont dit certains des députés, où nous débattrons des questions touchant la relecture ou la modification de la Constitution.
La loi encadrant le référendum est prévue à l'article 90 de la Constitution du 30 mars 2016. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 23 septembre 2022, avait jugé anticonstitutionnelle la procédure entamée à l'époque par le gouvernement pour rédiger une nouvelle Constitution. La Cour avait mentionné dans sa décision la possibilité de convoquer un référendum, mais tout en insistant sur la mise en place en amont du Sénat.
Merci Steve Mbetisinga sur Radio Ndekeluka dans le débat politique. Et bien sûr, M. Dimbélé, cette loi donne-t-elle désormais le pouvoir au président de la République ou du moins à son gouvernement de consulter directement le peuple sur des grandes décisions qu'il prendra? Quel est le bien fondé de cette loi pour le peuple centrafricain?
Merci beaucoup Armando. Je ne voudrais pas qu'on dise que c'est cette loi qui donne plein pouvoir au président de la République pour convoquer le référendum, non. Le pouvoir de convoquer le référendum est donné au président de la République par deux articles de la Constitution, à savoir l'article 41 qui dit que le président de la République peut soumettre au référendum toute loi avant ou après son adoption par le peuple centrafricain. Les seules conditions posées par cet article sont que le président de la République doit avoir l'avis du président de la Cour constitutionnelle, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.
Sénat.
Et cette disposition constitutionnelle poursuit en disant que dans le code électoral, il peut y avoir des contentieux relatifs à cette convocation, mais la Cour constitutionnelle n'aura qu'à vérifier
la constitutionnalité.
Forme, la forme. La forme seulement. Est-ce que les avis tels que prévus par le 41 de la Constitution sont respectés? Est-ce que les avis sont recueillis? C'est-à-dire les avis du président de la Cour constitutionnelle, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Est-ce que ces avis existent? Mais le contentieux ne concerne pas l'opportunité du référendum.
Et donc ça veut dire que ces obstacles, excusez-moi sur ce point, ces obstacles, ça veut dire le président de la République, que vous l'avez dit, devait ou bien doit consulter d'abord la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le Sénat. Cette fois-ci, dans cette nouvelle loi, il ne peut pas. Il peut convoquer directement le peuple.
Mais le président n'est pas en train de convoquer le référendum.
Non, je parle de cette nouvelle loi.
Cette loi, rien n'est dit que le président doit avoir l'avis de la Cour constitutionnelle, du président de l'Assemblée nationale pour cette loi.
C'est pourquoi je dis, c'est pour éviter les obstacles.
Justement, j'y arrive là.
D'accord.
Et l'article 90 dit que le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi et à citer les lois concernées, y compris la modification de la Constitution. Vous voyez, c'est en 1958, en France, il y a eu référendum.
Avec De Gaulle.
Pour que le président de la République de France soit désormais élu au suffrage universel direct. La loi en question, c'est-à-dire la loi votée le jeudi par l'Assemblée nationale, est un cadre général prévu à l'article 90 de la Constitution. L'article 90 dit que une loi fixant les procédures référendaires doit préciser, doit encadrer comment le référendum doit être organisé en République centrafricaine. Et la Cour constitutionnelle, dans sa dernière décision du 23 septembre dernier, la Cour constitutionnelle est revenue sur cette disposition constitutionnelle pour dire qu'il faut une loi qui encadre l'organisation du référendum en Centrafrique. Il y a même déjà une loi, le titre 6 du code électoral prévoit cette démarche. Mais simplement, il faut une loi spécifique
propre au référendum. C'est ce qu'il y a, c'est ce que
on va voir,
le gouvernement a été fait. Je voudrais pour finir préciser la procédure législative. Ça vous permettra de comprendre. Lorsqu'une loi arrive à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale prononce sa recevabilité. La loi est ensuite envoyée à la commission compétente pour l'examiner au fond. Et la commission a compétence pour modifier, pour amener des amendements au projet ou à la proposition de loi. C'est ce qui a été fait par rapport à cette loi. Et lorsque j'ai suivi ce qui a été dit tout à l'heure, lorsque Joseph Benouga a parlé de millions, mais le ministre Yapande a répondu qu'en conseil des ministres, il y a eu débat là-dessus et la commission est revenue dessus. Ça a fait objet d'amendement, donc c'était retiré du corpus.
Ça a été élagué. Hein.
Ça a été retiré du corpus de la loi.
Voilà, monsieur Yandoka, sur cette question.
Comme monsieur Dimbe l'a si bien dit, monsieur Dimbe est l'un des artisans de cette loi. Même s'il n'a pas eu le courage de le dire ouvertement, mais je vous le rappelle que c'est l'un des artisans. Nous étions au mois de février, ils ont tenté depuis le dialogue pour faire le forcing, afin de faire passer cette loi. Pendant le dialogue qui a été organisé par le gouvernement en mois de février, ça n'a pas eu effet. Ils ont retenté encore de repasser à l'Assemblée nationale, tout en sachant qu'ils ont été butés à une réalité constitutionnelle, qu'il fallait regrouper les deux chambres. Même jusqu'aujourd'hui, ils font semblant d'ignorer cette réalité, qu'il faut la majorité des trois quarts des deux chambres. Mais ça n'a pas marché. Ils sont revenus à la charge pour maintenant tenter autre chose en mettant en place le comité. Le comité a été retoqué par la Cour constitutionnelle et l'histoire d'inverser les hauts membres de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, ils reviennent encore à la charge pour nous proposer cette même loi. Monsieur Dimbele, vous avez ignoré que à l'époque, en 2020, vous avez tenté de proroger le mandat et ça n'a pas marché. La Cour constitutionnelle avait retoqué. Ça, c'était un premier point. Vous avez parlé, oui, en 2020.
Pardon, en 2020.
Oui.
Que
nous, vous avez tenté à l'époque, dans la sixième législature.
Oui.
De tenter une modification au niveau de la Cour constitutionnelle, ça a été retoqué.
Oui.
Et vous avez repris encore la même chose pour nous ramener en 2022. Alors, monsieur Dimbele, vous avez parlé en citant les articles de la Constitution de la République centrafricaine.
Non, article 41 et 90. Pas
de quelle Constitution?
Du 16 mars.
16 mars 2001. Du 30 mars 2016.
30 mars, oui.
Ok. Mais vous avez marché sur cette constitution depuis. Vous le savez? Pourquoi vous faites référence à cela? Pourquoi vous faites référence? Vous savez qu'il existe une constitution, mais ça ne vous a pas empêché de marcher sur ces dispositions. Quand ça vous arrange, vous faites appel à cette constitution de 30 mars que vous révoquez totalement parce que c'est une constitution qui a été mal montée. Aujourd'hui, quand ça vous plaît, vous faites appel à cela. Monsieur Dimbele, la loi qui a été votée sur la procédure référendaire, mais quel référendum? Référendum sur quoi? Vous voulez faire quoi? Parce que quand il s'agit de référendum, il faut dire que si c'est pour modifier une constitution ou de réécrire une nouvelle constitution, où est le projet de cette constitution ou de cette nouvelle constitution ou de la réécriture de la constitution?
Mais je vous rappelle que cette loi ne parle pas seulement du référendum constitutionnel. Elle s'étend à toutes les décisions qui concernent la vie de la nation, la réécriture de la constitution, que peut-être la toute monnaie, la vente de nationalité, des ressources naturelles.
Justement, etc. J'en viens.
Pourquoi vous visez seulement la constitution?
J'allais en venir, si vous m'avez pas coupé. J'allais en venir. Tout ça, ça a été fait pour remettre dans la course toutes les lois qui ont été prises d'une manière unilatérale, contre la volonté populaire, contre une partie de la population qui a été instrumentalisée pour les ramener dans le droit chemin, notamment la crypto-monnaie qui a été retoquée par la Cour constitutionnelle, y compris le projet de la nouvelle constitution que M. Dimbele et les autres ont voulu faire réécrire en République centrafricaine. Tout ça, ils veulent le faire. Il avait évoqué quelque chose, M. Dimbele, nous ne sommes pas dupes quand même. Vous fabriquez des fausses idées pour introduire dans ce projet de loi, pour montrer aux yeux du monde que non, cette loi a subi des amendements au sein de la commission. Qui vous aurait cru de dire qu'un jour, un parti politique va se lever pour prendre 1 million pour le faire? Ça, c'est une fausse idée. Vous avez fait ça, vous avez mis sciemment pour tromper la vigilance des Centrafricains, pour montrer au monde que, comme quoi vous êtes des grands démocrates. Vous, initialement, le projet, c'était comme ça. Le projet a été discuté en conseil de ministres.
Monsieur Yandoka, malheureusement, ce n'est pas ça.
Qui vous a dit?
Très respectueusement, je pense que vous êtes député. Et je pense que vous connaissez la procédure législative. Je pense que vous le savez.
Très bien.
Et je pense que lorsqu'une loi arrive dans une commission donnée et que cette commission-là a compétence pour la modifier.
Je suis d'accord avec vous.
En apportant des amendements.
Mais
je pense que vous, en tant que député,
une loi qui a été conspirée, c'est une conspiration.
La procédure
ne souffre pas. Ce que vous avez décrit, c'est bien la procédure, mais ce qui est
je
dedans.
Je voudrais vous définir le référendum pour vous permettre d'éviter la fixation. Le référendum est une procédure.
Oui.
Est une procédure par laquelle tout citoyen d'une communauté donnée peut se prononcer par oui ou non sur un sujet politique que lui pose le gouvernement.
Oui.
Voilà. Et c'est pas la première fois que le référendum est organisé en Centrafrique.
Oui.
Le référendum a été organisé en Centrafrique depuis bien longtemps. Récemment, en 2016, il y a eu un référendum. Mais si on va plus loin, ce référendum-là,
oui.
On l'a organisé sur quelle base? Sur quelle base juridique ce référendum de 2016 a été organisé? Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de code électoral.
Oui.
Qui mentionnait le référendum. Il n'y avait pas de code électoral.
Oui. Il y avait le forum de Bangui.
Mais le forum de Bangui.
Qui avait recommandé
le forum de Bangui n'est pas un. Le forum de Bangui n'est pas un instrument. Le forum de Bangui n'est pas un instrument.
Il y a la charte constitutionnelle de transition à l'époque.
La charte constitutionnelle a été adoptée par qui? Vous savez, pour qu'il y ait la charte constitutionnelle a été adoptée par qui? Par un groupe de Centrafricains.
Oui.
C'est ce que M. de Gaulle en France a rejeté lorsque le président français n'était élu que par un groupe de Français. Il a dit, moi de Gaulle, je veux, pour être président de France...
On peut faire économie de Gaulle, on peut parler de forum de Bangui.
Mais je suis en train de vous donner l'exemple.
Oui.
Maintenant, étant donné qu'un référendum est une procédure pour interroger le peuple ne peut pas être interrogé que sur le projet de la Constitution. On peut interroger le peuple sur le projet de la crypto-monnaie.
C'est ça.
On
peut interroger le peuple sur
tout ce que la Cour constitutionnelle a retoqué comme loi et vous voulez ramener ça en jeu.
Moi, je pense qu'en tant que député, vous devez savoir lire les décisions d'une Cour constitutionnelle.
Non, je ne sais. Alors,
la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle
n'a jamais rejeté la loi sur la crypto-monnaie.
Elle a dit
la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle
certaines
dispositions de cette loi-là.
Ok,
malheureusement,
Pourquoi vous n'avez pas continué sur la base de ce qui est resté dans cette loi,
cette disposition sur lesquelles la Cour constitutionnelle a...
Il y a des dispositions clés.
S'il vous plaît. Allez-y,
je dis malheureusement, les dispositions de cette loi sur lesquelles la Cour constitutionnelle a statué n'existent pas. C'est de la publicité. La Cour constitutionnelle a statué sur la publicité.
Mais
est-ce qu'il est du ressort?
Quelle publicité vous
parlez? Est-ce qu'il est du ressort?
Quand on parle de la vente de la nationalité centrafricaine, c'est une publicité.
Mais ce n'est pas dans la loi.
Pardon?
C'est pas dans la loi.
Mais vous avez homologué, le président de la République a pris un décret. Vous avez homologué site internet.
Non, mais c'est pas dans la loi.
Et vous avez commencé par vendre la nationalité.
Est-ce que le site internet est un instrument juridique? Est-ce qu'un outil de communication est un instrument juridique?
Mais c'est encadré
monsieur
par...
Monsieur Yandoka,
l'outil de communication encadré.
Une question pour vous. Peut-on dire que cette loi permet de contourner la vigilance ou le regard des élus de la nation sur certaines lois?
Bien entendu, comme vous le savez, cette loi a été initiée par ses auteurs à dessein. C'est juste pour camoufler initialement, quand il y a de telles procédures au niveau de l'Assemblée, les députés de la majorité ou de la majorité fabriquée sont appelés, conscientisés, soudoyés pour pouvoir voter de telles lois pour satisfaire le besoin. Comme M. Dimbé l'avait dit tout à l'heure, que ceux de la majorité présidentielle ont pour mission de voter systématiquement tout projet de loi émanant du gouvernement. Donc, pour moi, ce n'est pas la seule loi, mais nous allons nous attendre encore à d'autres lois. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer que cette loi, naturellement, fera objet d'une procédure au niveau de la Cour constitutionnelle pour pouvoir déclarer sa constitutionnalité.
Oui,
parce que déjà, il vous souviendra que déjà en matière de la procédure, M. Dimbé le sait, le vote a eu lieu le 28. On nous a remis le projet de loi sur le référendum le 27. Or, dans son article 27, je crois, de notre règlement intérieur, il est beaucoup plus conseillé de remettre un projet de loi 48 heures avant. Donc, même en termes de procédure en interne, ça a causé problème. La loi votée le 28, nous avons reçu le 27. Personne n'a eu le
29,
temps.
Le 29, c'était jeudi, je pense.
C'était le 28 ?
29, jeudi.
Ah, c'était le 29, autant pour moi. Donc, nous avons reçu le 28 pour voter le 29. Toutes ces lois que vous avez entendues parler, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit la loi sur le référendum, c'est fait à dessein, ça a été fait dans la précipitation, on a quasiment obligé les gens. C'est-à-dire que vous suivez, vous allez comprendre que crypto-monnaie, par acclamation, parce que de peur que si on va aller de vote à bulletin secret, il devait avoir certains députés qui allaient se prononcer. Parce que beaucoup sont ceux qui sont contre ces lois, mais qui le votent quand même. Parce qu'ils ont peur.
De quoi ?
De se prononcer.
De sanctions.
Mais bien
de
sûr, comme je parlais de la caporalisation, la même mise, la même basse, on achète la conscience des gens. Or, c'est quelque chose qui est déplorable.
On va écouter, monsieur.
Un député de la nation n'a pas été élu pour trahir sa conscience.
On écoute, monsieur Dimbélé, sur cette question. Vous avez suivi l'introduction de cette loi ou bien la procédure, la loi référendaire qui encadre les procédures du référendum est une manière de contourner la vigilance ou le regard de certains députés sur certaines pratiques.
Je vous remercie une fois de plus. Je crois savoir que je suis en face d'un député et de surcroît d'un président de commission à l'Assemblée nationale. Et je suis tout simplement étonné de certaines déclarations. Par exemple, de procédure interne. Lorsque le député sait que la procédure interne n'est pas respectée, le député peut relever le non-respect de cette procédure-là pour demander, par exemple, le renvoi de la Constitution au nom de ce que la procédure n'a pas été respectée. J'étais dans la salle ce jour-là. Je crois savoir que aucun député n'a relevé ce manquement et les gens ont voté. Deuxièmement,
il y a plusieurs
modes de votation à l'Assemblée nationale. Il y a des projets ou propositions de loi qui sont obligatoirement votés à bulletin secret, notamment les lois de désignation de personnes. À dire, par exemple, au mois de mars prochain, vous choisirez vos collègues pour aller au bureau à bulletin secret. Les lois de finances, c'est obligatoirement à bulletin secret. Et je crois savoir également que chaque fois que le président... Mais vous avez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, honorable.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est fait à dessein.
Mais qu'est-ce qui est fait à dessein? Le règlement intérieur est fait à dessein.
Non, les votes par acclamation.
Non, mais
tout ce qui est vote par acclamation, c'est pour éviter un camouflet.
Voilà ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Vous le savez très bien.
Non, attendez.
Parce que vous
quand
conseillez...
Vous avez parlé, je ne vous ai pas arrêté.
Oui, allez-y, on écoute, monsieur.
Je dis que vous êtes président de commission honorable.
Bien sûr.
La première chose d'un député, lorsqu'il est élu, il arrive à l'Assemblée nationale, il essaie de lire maîtriser le règlement intérieur.
Mais non, non.
Et je crois savoir que la procédure de vote de loi,
s'il vous plaît,
est qu'à la fin des débats, le président des séances annonce que les débats sont clos. Et il annonce encore que puisqu'il n'y a pas eu renvoi, ni à la commission, ni au gouvernement, il n'y a pas de motion de renvoi, que le vote interviendra dans quelques instants, ou dans 5 minutes, ou dans 10 minutes. Le président prend soin d'annoncer ça. Et à la reprise, le président des séances prend toujours soin d'annoncer que ce vote-là se fera au scrutin public, par acclamation, par main levée, par levée assise. Le président propose, et c'est les députés qui choisissent le mode de votation de la loi en
dans
question.
Un pays normal, donc, dans un pays normal, dans une assemblée qui respecte, qui est aussi démocratique. Je veux vous dire quelque chose, monsieur Dimbélé. Vous avez une fixation. C'est ce que nous avons vécu. C'est le vécu de député que je suis. C'est le vécu de beaucoup de mes collègues.
Et c'est dans la loi.
Quand vous voulez faire un passage en force, vous insistez à ce que le vote soit
par acclamation.
Je suis désolé.
C'est une réalité.
Beaucoup ne sont pas informés de cela. Je suis désolé.
Les députés ne choisissent pas. Armando, comme je vous parlais de la caporalisation.
Vous m'avez posé une question.
L'instrumentalisation des votes au niveau de l'Assemblée.
C'est que vous l'avez déjà répondu. Monsieur Yandoka, sur la question, c'est que.
Je n'ai pas répondu à la question que vous m'avez posée.
Vous avez fait la différence entre les modes de votation au niveau de l'Assemblée nationale.
Est-ce que c'est une manière de contourner les députés?
Vous répondez à ma question cette fois-ci.
J'ai dit non, ce n'est pas une manière de contourner. C'est une loi que le gouvernement a envoyée à l'Assemblée nationale qui a suivi la procédure législative normale. Que ce loi-là, le bureau a statué sur la loi pour prononcer sa recevabilité. Cette loi a été examinée au fond par une commission de l'Assemblée nationale.
Et amendée, c'est ce que vous l'avez déjà dit.
Et amendée. Cette loi a été en plénière, discutée. Monsieur Yandoka était dans la salle. Il était dans la salle. D'ailleurs, il s'est inscrit pour intervenir. Après, il a quitté la salle.
Vous savez pourquoi?
Là, vous ne jouez pas.
Je veux vous dire pourquoi. Il y a un nombre pléthorique. Vous avez déjà instrumentalisé le vote. Les orientations ont été données. Les enveloppes ont été distribuées. Et celui qui paye commande.
Je ne suis pas de l'opposition ni de la majorité. Je suis pour la République.
Non, je suis pour les Centrafricains. Les enveloppes ont été distribuées. Et celui qui a distribué les enveloppes a donné des orientations.
Vous l'avez déjà dit. Le temps ne fait pas défaut. Je suis désolé.
Que vous pouvez instrumenter.
Puisque vous ne connaissez pas encore. Désolé.
Vous le savez. Je ne sais pas.
On n'est pas sur ce point. Monsieur Dimbélé. Monsieur Yandoka. Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le débat d'aujourd'hui. Merci bien à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Nous avons parlé de la nouvelle loi qui fixe et qui encadre désormais la procédure du référendum en République centrafricaine. Cette loi donne le plein pouvoir au président de la République de consulter directement le peuple, s'il le souhaite, sur certaines réformes de son gouvernement. Et nous avons la participation du conseil spécial du président de l'Assemblée nationale, ancien député et coordinateur du mouvement Centrafrique Debout MCD, qui soutient les actions du président de la République, Mathurin Dimbélé Nakwe. Merci d'être venu et une occasion, quelques secondes pour souhaiter bonne année à tous les Centrafricains.
Merci Armando, je voudrais souhaiter bonne année d'abord à mes épouses, hein, Dimbélé Germaine et Dimbélé Berthe, à tous mes enfants, Dimbélé de Boerab, de Damala, de Dakar, de France et du Maroc. Je voudrais souhaiter également bonne année à tous mes frères de Sosona Combo et de Transévilla. Et puis bonne année à tous les auditeurs de Ndekeluka, à tous les auditeurs de Radio Centrafrique et à tous mes collègues chargé des missions et conseiller à l'Assemblée nationale.
Ici. Voilà, ne t'en fais pas, désolé, on ne va pas tout citer ici. Et Dominique Yandoka, merci aussi, député de la première circonscription du 4e arrondissement de Bangui, président de la commission ressources naturelles à l'Assemblée nationale. Merci pour votre contribution à cette émission et bonne année.
Bonne année à vous, bonne année d'abord au peuple centrafricain, en particulier ceux de la première circonscription du 4e arrondissement. Bonne année à tous les auditeurs de Ndekeluka, à ceux de la diaspora. Bonne année à tous les jeunes, à nos mamans. Bonne année, et que cette année soit une année meilleure.
Voilà, la semaine prochaine, même heure et même fréquence, toute l'équipe de Radio Ndekeluka se joint à moi pour vous souhaiter aussi bonne année 2023. Prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.